pourquoi l'unité est-elle si importante pour notre monde? Comment la bâtir en commençant par l'unité de la personne? C'est la question que vous posez à votre invitée Isabelle Duché ce matin, professeure de philosophie.
L'unité, c'est le thème choisi par la formation Passeur d'Espérance à la paroisse du Christ Roi à Toulouse, unité de Dieu de laquelle découle l'unité de la personne, de la famille, de l'Église, du monde. Ce matin, nous regardons qui est l'homme et ce que signifie cette unité de la personne humaine. Bonjour Médéric Saussé.
Bonjour Isabelle.
Pour notre région, vous êtes enseignant en philosophie au séminaire de Toulouse, à l'Institut catholique de Toulouse et à l'Université Paul Sabatier, Toulouse 3. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, alors là, ça, c'est la grosse question, qu'est-ce qu'est l'homme avec un grand H?
Ah, c'est toujours une belle question.
Ouais.
On dit souvent que c'est un mystère et j'aime assez cette caractérisation parce qu'elle dit à la fois le fait qu'on peut connaître quelque chose de concret de l'homme, qu'il est une âme autant qu'un corps, comme dit Molière, et en même temps que la connaissance de l'homme n'est jamais épuisée et que c'est par la rencontre de chaque homme individuel qu'on peut aussi comprendre plus concrètement ce qu'est la nature humaine et tout son potentiel.
Et on le voit bien avec les couples qui sont mariés depuis des années et des années. En fait, ils ne se connaissent pas complètement.
Ça fait 5 ans que je suis marié. Ce n'est pas encore un très long mariage. Mais c'est vrai qu'en 5 ans, on se rend compte à quel point on a changé. Et c'est vrai que c'est important parce que ça permet d'appuyer aussi sur cette dimension historique de l'homme. L'homme, il est un, mais il vit dans une succession de moments qui sont plus ou moins précieux, plus ou moins importants. Et je crois que c'est aussi important, en ce sens, d'avoir le sens de la fête. Et ça peut paraître un peu paradoxal de parler de ça à l'occasion de l'unité de la personne, mais finalement, c'est essentiel, parce que notre unité, c'est un héritage, et il s'agit de le célébrer. Et lorsque l'homme et la femme deviennent un, eh bien, c'est une joie, c'est une fête. Et petit moment témoignage, pour nos 5 ans, on a essayé d'inviter des amis, de la famille, etc. Et c'était très beau parce que c'était un vrai lieu d'unité où les gens se rencontraient et se revoyaient. Et ça, je crois que c'est la vocation de l'homme, d'être héritier de cette unité. Puis ensuite, quand on est héritier, qu'est-ce qu'on fait de cet héritage?
Oui. Et puis, comme vous dites, l'homme grandit, il est héritier effectivement d'un héritage, mais aussi, il reçoit énormément de tout son environnement. Et ça aussi, ça le fait évoluer.
Ah, ça, c'est certain.
Ouais.
Et on dit souvent qu'une personne qui n'est pas éprouvée ne croit pas, du verbe croître. Et c'est assez vrai, mais c'est vrai également des environnements qui ne nous éprouvent pas, mais qui nous mettent en confiance. Et c'est toujours assez intéressant de tenir les deux. Vous parliez du couple, on pourrait parler aussi des enfants. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir dans l'éducation de nos enfants la part qu'il faut tenir entre le fait de les mettre suffisamment en confiance pour être en paix et croître heureusement, et en même temps de les laisser éprouver eux-mêmes leurs difficultés. Et à petite échelle finalement, au sens physique du terme, hein, parce qu'ils sont tout petits, c'est quand même une belle métaphore de la vie humaine dans sa totalité. Pour vivre et cultiver cette unité, essayer de trouver les lieux de paix, les personnes avec qui on est en paix, pour se laisser influencer par notre environnement dans un sens très positif, et puis en même temps être capable de dire, voilà, ça c'est difficile, mais c'est mon combat, et là il faut que je l'affronte.
Ça implique une grande marge de liberté, et notamment donnée de la part des parents vis-à-vis de leurs enfants pour leur dire, voilà, tu choisis ce chemin, on n'est pas sûr que ce soit le bon et que tu vas pas te blesser, mais on te laisse faire l'expérience.
C'est ça.
Ouais, ça, c'est un sacré défi. Hein. Vous avez parlé, Médéric Saussé, vous avez fait référence à Molière, vous avez parlé du corps et de l'âme. Là, il y a une unité à construire entre ces deux entités, si on peut les appeler comme ça.
Devrions-nous dire construire? Je ne sais pas. Ce qui m'a toujours marqué, c'est que j'ai utilisé tout à l'heure le terme d'héritage.
Oui.
Et je crois qu'on en est là. C'est-à-dire que nous sommes une âme autant qu'un corps, dit Molière. Et il n'en parle finalement pas comme deux entités, mais comme marchands de compagnie, je cite encore. Et ce qui est intéressant dans cette phrase de Clitandre, c'est finalement le fait que nous sommes nés un, âme et corps. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire tous l'expérience, à un moment ou à un autre, d'être divisé contre nous-mêmes. Ça m'a toujours marqué, vous savez, chez saint Paul, il y a cette phrase « je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux ». Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette phrase qui est de saint Paul est aussi d'Ovide, dans les métamorphoses. Et c'est assez intéressant parce que c'est donc un témoignage commun qui n'est pas propre à la chrétienté. Et donc, on peut vivre cette division en nous-mêmes. Maintenant, cette division, j'ai envie de dire, ou bien on s'en attriste, ou bien on peut désespérer, ou bien au contraire, on peut essayer de voir dans le fait de vivre complètement dans notre corps et complètement dans notre âme, un vrai lieu d'unité, un vrai chemin. Et en ce sens, je dirais que plutôt que le terme de construire, qui a un côté très mécanique, matériel, ouais. Je dirais qu'il faut apprendre à vivre notre unité, en synergie. J'ai toujours, pour ça, beaucoup aimé la danse. On s'est rencontrés en dansant avec ma chère et tendre. Et ça m'a toujours marqué de voir à quel point, en fait, deux personnes qui ne se connaissent pas ou qui apprennent à se connaître, en fait, vont apprendre à danser sur la musique, à interpréter la musique. Et à partir de ce moment-là...
Elles se mettent au rythme l'un de l'autre.
Exactement. Au rythme l'un de l'autre et au rythme aussi de la musique.
Oui, bien sûr.
Et ce qui fait que, en fait, le couple de danseurs est plus qu'une somme de deux individus. Et je trouve qu'entre l'âme et le corps, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vivre pleinement dans son âme et dans son corps, c'est pas vivre pleinement dans son âme et pleinement dans son corps. L'ensemble est plus que la somme des parties.
La somme des deux, oui.
Exactement. Mmh. Et c'est comme dans la vie professionnelle. Si vous vivez, vous avez votre vie, vous êtes bon dans votre job et vous êtes bien dans votre famille, mais qu'entre les deux, il n'y a pas spécialement de synergie, on peut vivre finalement un peu coupé, comme si on était en vase clos, sauf qu'on n'est pas. On n'est pas fait pour vivre dans des vases clos. Et on voit que c'est tout à fait différent quand, au contraire, une personne arrive à mettre en synergie et sa vie professionnelle et sa vie personnelle. C'est plus que la somme des parties.
Oui, c'est ça. Mais alors, concrètement, comment ça peut se faire, justement, cette synergie entre l'âme et le corps?
Je dirais deux choses. La première, je fais de la philo, hein.
Oui.
Connais-toi toi-même. C'est la connaissance de soi et qui est tout à fait cruciale, à la fois connaître notre nature. Je suis intelligent, d'accord, ok, en tant qu'être humain. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que je suis intelligent comme une machine? Est-ce que je suis intelligent comme Dieu? Est-ce que je suis intelligent comme un ange? Quelle est la spécificité de mon intelligence par rapport aux animaux qui montrent un comportement si intelligent? Aristote va jusqu'à dire qu'ils sont prudents. Il utilise le terme de phronesis, de prudence pour les animaux. Ça peut paraître curieux quand on sait que c'est une vertu intellectuelle. Donc, de fait, il y a ce premier point de connaissance de soi quant à notre nature et quant à notre histoire propre. Parce qu'il y a effectivement des choses qu'on vit personnellement en bien et en plus difficile. Et donc, je pense que c'est important de savoir qui on est, d'où on vient, où on va.
Donc ça veut dire très concrètement poser des questions à ceux qui nous entourent pour savoir quelle est notre histoire, s'il y a des zones d'ombre.
Ça, tout à fait. Alors ça, c'est très très beau. C'est le grand-père de ma chère et tendre qui a fait ça. Il a écrit toute une partie de sa vie, il a réécrit en biographie. Et c'est vrai que, et moi ce qui m'a marqué, c'est qu'à la fois pour lui, en fait, il redécouvrait des choses. Voilà, il a presque 95 ans bientôt. Et il redécouvrait des choses qu'il avait oubliées. Mais ce qui m'a marqué, c'est que le reste de sa famille se connaissaient mieux.
Ah oui.
C'est qu'en fait, en miroir, en fait, il y a des choses qu'ils ne savaient pas, qu'ils ont découvert, et finalement, c'était toujours la même personne qui connaissait. Mais pas tout à fait.
Ah oui.
Et ça, c'était très beau. Et je crois qu'effectivement, le fait d'être à l'écoute, de poser des questions, et puis aussi de savoir aussi qu'on se souvient mal. Et vous savez, il y a cette phrase, on dit « si tu te souviens, c'est que tu te trompes ». Parce qu'effectivement...
On fait un tri,
et puis les souvenirs peuvent se modifier. Enfin, voilà, c'est intéressant de faire la part des choses et d'avoir aussi un sain recul par rapport à notre histoire.
Mm-hmm. Alors, ça, c'est connaître son histoire pour mieux apprendre à se connaître soi-même. Et puis, ça ne suffit pas?
Non, il y a la dimension, j'ai envie de dire, plus fondamentale au sens de plus commune qui est propre à tous les hommes. Voilà, c'est quelle est notre nature? Que suis-je? Et ce qui me marque énormément, c'est de voir qu'un philosophe comme Aristote, par exemple, et elle est très loin, hein, il a pu arriver jusqu'à finalement manifester que l'homme était à la fois matériel et spirituel, pour le dire de manière rapide. Et donc finalement, l'homme joue un rôle intermédiaire. On parle beaucoup d'écologie intégrale aujourd'hui. un séminariste me faisait la remarque que effectivement l'écologie c'est pas juste une question extérieure, mais c'est aussi, il faut aussi cultiver l'écologie intérieure, c'est avec quoi j'étais tout à fait d'accord, écologie intégrale, et c'est vrai qu'il a tout à fait raison de pointer cela. Parce que finalement,
qui met en avant la dignité de l'homme,
qui met en avant la dignité de l'homme, qui finalement être, je l'avais évoqué dans la préparation, d'être un passeur. Il est un intermédiaire entre le monde surnaturel de Dieu, des anges, le monde matériel, des bêtes, des animaux, des minéraux, etc. Et entre les hommes. Il est aussi un intermédiaire entre les hommes. Ce qui fait que c'est très très beau de... Certaines personnes s'attristent que l'homme est un être qui passe. Le transhumanisme s'oppose complètement à cette idée-là. Moi, au contraire, je trouve que c'est très beau. Nous recevons, nous cultivons, nous transmettons.
Nous semons.
Et c'est bien.
Et nous semons. Et c'est la fin.
Et ensuite, c'est la fin.
Et puis, ça donne la suite à quelqu'un d'autre, finalement.
Tout à fait.
Et c'est là aussi que vous parlez de passeur, mais là aussi, c'est un témoin qui se passe.
Complètement.
Aussi, entre les générations.
C'est ça, c'est un témoin, mais un témoin qui change aussi, parce que finalement, c'est... vous savez, j'aime assez... Il y a un... Évidemment, au moment où je le dis, j'oublie le titre, mais il y a un roman d'Heroic Fantasy qui s'appelle Margacan. Et dans ce roman d'Heroic Fantasy, en fait, il y a certaines armes qui sont pénétrées de tous ceux qui l'ont utilisé. Et ce qui fait que lorsque les gens combattent pour le bien, eh bien, en fait, ils combattent armés de tous ceux qui les ont précédés. Et j'aime beaucoup cette métaphore parce que finalement, vous voyez, nous nous sommes rencontrés, et bien quelque part, vous ferez partie de moi pour le reste de la journée, pour le reste de la semaine, etc., pour le reste de ma vie. Chacun a sa proportion, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que, en fait, quand on passe le relais, finalement, on vit aussi, on continue à vivre dans les autres.
Oui, c'est l'héritage.
Et on ne s'en rend même pas compte.
Ouais.
Parfois, c'est un sourire.
Ouais.
Ça m'a marqué de voir que parfois c'est... Je me souviens d'une fois, j'étais terriblement triste. C'était une période pas très facile à Paris. Et une personne m'a souri dans la rue. Mais un vrai sourire beau, généreux et doux. Je m'en souviens encore, plus de 15 ans plus tard. Plus de 15 ans plus tard. Et c'est là où il y a une belle phrase de Thomas d'Aquin concernant la providence divine. Il dit que Dieu prend soin de toutes les choses jusqu'aux plus petites. Eh bien, je crois que finalement, pour cultiver cette unité de la personne, le fait qu'on soit des passeurs, eh bien, il faut prendre soin de toutes les choses jusqu'aux plus petites. Les salutations, comment ça va ? Proposer un café en arrivant, merci, etc. Tout ça, c'est des petites choses. Et finalement, c'est ça qui fait notre vie.
Oui, et cette unité, elle mérite qu'on prenne soin des toutes petites choses, qu'on soit attentif aussi aux uns et aux autres. Il y a quand même une dimension surnaturelle. Qu'est-ce que la foi apporte à l'unité de l'homme ?
Alors là, il y aurait beaucoup à dire.
Ouais.
Ce qui est certain, et c'est ce que je dirais, c'est que la foi permet, et je le dirai en un mot sur ce rapport, de développer une vie transfigurée, pour la dire rapide,
transfigurée.
C'est-à-dire que finalement, ça peut être la même personne qui fait les mêmes choses au même endroit, avec les mêmes gens. Mais vous voyez, quand vous donnez, par exemple, quand vous faites l'aumône et que vous donnez 5 euros à quelqu'un dans la rue, vous pouvez le faire par pitié. Dans ce cas-là, vous êtes mu. Vous pouvez le faire par justice, strictement humaine. Voilà. Il est dans le besoin, moi j'ai un peu plus, je lui donne. Et vous pouvez aussi voir dans cette personne un autre Christ. Et finalement, vous voyez, c'est le même acte, au même endroit, avec les mêmes gens. L'acte n'a plus rien à voir. Et je dirais que la foi permet ces deux choses, à la fois d'avoir une vue plus parfaite de ce qu'est la nature humaine, parce que finalement, nous connaissons quelqu'un d'autre, enfin, trois autres personnes qui vivent aussi une unité, alors qu'on pourrait croire qu'ils sont trois complètement séparés. C'est la Sainte Trinité.
Oui.
Père, Fils et Saint-Esprit, c'est toujours difficile de tenir Dieu un et trine, hein. C'est un beau mystère. Et en même temps, bah, c'est pareil, l'homme a mes corps. Il y a quelque chose
de cette unité de Dieu,
ouais. Qui est marqué en nous. Saint Augustin est très très bon là-dessus, lorsqu'il dit que voilà, le fait que nous soyons intelligents, doués de volonté, doués de mémoire, c'est une image de la Sainte Trinité en nous. Et donc voilà, je dirais, voilà, par rapport à la foi, il y a ces deux choses. Il y a un, ça nous apporte une plus belle connaissance de la nature humaine, et deux, ça nous permet de mieux s'y comprendre dans quelle perspective on est et qui on est les uns pour les autres. Nous sommes des Christs envoyés à d'autres Christs.
Voilà. Alors ça, c'est un sujet évidemment que la formation Passeur d'Espérance va développer tout au long de l'année, avec des conférences que les auditeurs pourront retrouver sur Radio Présence. Ce soir, justement, c'est le deuxième volet de la formation avec le frère Emmanuel Perrier, qui est dominicain, directeur de l'INSTA, l'Institut Saint-Thomas d'Aquin. Il parlera de l'union de l'homme à Dieu. Et je vous remercie, Médéric Sausset, de nous avoir éclairé sur cette unité de la personne humaine. Je rappelle que vous êtes enseignant en philosophie au séminaire de Toulouse, à l'ICT et à l'université Paul Sabatier à Toulouse 3.
Merci beaucoup.